la carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur l'éventualité d'une candidature d'Abdelaziz Bouteflika à l'élection présidentielle du mois d'avril. À 81 ans, malade depuis des années, le président algérien va-t-il briguer un cinquième mandat? En tout cas, un mois de la clôture des candidatures, il n'a toujours pas fait part de ses intentions, mais les quatre partis de la coalition au pouvoir lui ont officiellement apporté leur soutien. Et il y a quelques jours, son premier ministre a même affirmé qu'il n'y avait aucun doute sur sa candidature et que l'état de santé du chef de l'État ne l'empêchera pas de se représenter. Alors que vous inspire ce scénario? On vous attend au standard 33 9 693 693 70. Vous continuez également à poster vos commentaires sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. On va commencer avec un sujet, on en parlait d'ailleurs il y a quelques instants dans le journal de Michael Ponge, le dernier rebondissement dans l'affaire Benalla. Bonjour Satigui.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de Radio Mondiale.
Merci de nous appeler de Conakry en Guinée. Nous vous écoutons.
Juan, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire sur Mediapart, toujours dans l'affaire Benalla, et a envisagé donc de faire des perquisitions dans le locaux de Mediapart. Mais les responsables de Mediapart s'opposent à cette perquisition. Alors, on a des questions. Pourquoi les responsables du Mediapart ont le droit de s'opposer à cette perquisition?
Ah oui, effectivement. On va déjà répondre, si vous le permettez, à cette première question avec Stéphane Geneste, journaliste au service France de RFI. Bonjour Stéphane.
Bonjour Juan.
Le parquet de Paris a effectivement ouvert une enquête après la publication par nos confrères de Mediapart de plusieurs enregistrements de conversations entre Alexandre Benalla, qui, rappelons-le, était conseiller d'Emmanuel Macron, et Vincent Kras, ancien responsable de la sécurité du parti présidentiel La République En Marche. Ces deux hommes se sont rencontrés, ils ont donc discuté alors qu'ils avaient interdiction de se voir en vertu de leur contrôle judiciaire. Et il y a eu en début de semaine, effectivement, ces deux procureurs qui se sont présentés à la rédaction de Mediapart pour essayer de saisir ces enregistrements. Le site d'information avait-il le droit de s'opposer à la perquisition?
Oui, parce que les membres, les enquêteurs, agissaient dans le cadre d'une enquête préliminaire, une enquête préliminaire qui est ouverte par le parquet de Paris. Et dans le cadre d'une enquête préliminaire, il faut savoir qu'il faut l'accord des occupants des locaux qui sont visés par une perquisition. Cet accord-là, il est obligatoire. Mais cette question, cette aiguille, elle est totalement légitime, puisque dans le cas d'une perquisition, on ne peut pas refuser parfois une perquisition. Une perquisition, on ne peut pas la refuser quand elle est faite dans le cadre d'une information judiciaire et d'un flagrant délit. En ce qui concerne Mediapart, il est possible que des membres du parquet reviennent, peut-être, avec un mandat du juge des libertés et de la détention pour que la perquisition devienne coercitive. Là, ça veut dire que il n'y aura pas de contestation possible et ils n'auront pas le droit de refuser la perquisition.
Oui, vous aviez une autre question, Satigui.
Pourquoi le parquet a ouvert cette enquête?
Alors, une enquête pour atteinte à l'intimité de la vie privée.
Oui, alors il y a effectivement l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Paris pour atteinte à l'intimité de la vie privée d'Alexandre Benalla et de Vincent Kras après la diffusion de ces enregistrements. Et puis le parquet veut aussi comprendre les conditions dans lesquelles ces enregistrements ont été réalisés et puis aussi ont été diffusés.
Oui, enfin, atteinte à l'intimité de la vie privée alors que les deux personnes concernées n'ont pas porté plainte.
Voilà, c'est ça. Il n'y a pas eu de plainte d'Alexandre Benalla et de Vincent Kras. Et le parquet de Paris a ouvert cette enquête sur l'ensemble des éléments sans qu'il n'y ait de plainte. Donc, on ne connaît pas la nature des éléments qui ont été transmis au parquet. Mais hier, Mediapart a annoncé que c'était l'exécutif, à savoir Matignon, donc les services du Premier ministre, qui ont fait part au parquet de leur inquiétude.
Ouais. Se pose évidemment la question du secret des sources, puisque là on a deux procureurs qui se présentent dans une rédaction pour essayer de récupérer ces enregistrements.
Et le secret des sources, c'est un principe fort dans le journalisme. Il s'agit de protéger les personnes qui nous donnent, à nous journalistes, des informations, notamment des informations compromettantes, parce qu'ils n'ont pas envie que leur nom apparaisse dans la presse. C'est tout simple et on se doit de respecter ça, c'est un devoir. Pour Mediapart, il y a eu une attaque, une atteinte au secret des sources, enfin une tentative du moins, puisque l'objectif selon eux de cette perquisition, c'est d'identifier les les sources, qui a enregistré, qui a diffusé cet échange. Edwy Penel, le directeur du site d'information, précise que lui, il partage, son objectif c'est de partager des informations d'intérêt public. Et puis il a même été rejoint par le président de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, qui considère que c'est une affaire stupéfiante, inquiétante, qu'il y a une tentative d'atteinte au secret des sources et que le parquet met en danger le journalisme d'investigation. Il a même d'ailleurs été rejoint par une trentaine de sociétés de journalistes. C'est une association de journalistes d'une rédaction et RFI en fait partie.
Effectivement, Christophe Deloire qui s'est ému de cette tentative de perquisition chez Mediapart. Nos confrères, et notamment le patron de la rédaction, Edwy Planel, parle d'une manœuvre politique.
Oui, il parle d'une manœuvre politique parce qu'il considère, il a deux arguments, il avance deux arguments. Le premier, c'est que le procureur de Paris, Rémy Heitz, a été nommé en octobre dernier par Emmanuel Macron, alors que toutes les instances qui sont en charge des nominations, c'est-à-dire le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice, proposaient d'autres noms. Et Edwy Penel le qualifie même, le procureur de Paris, de serviteur du président de la République et d'Alexandre Benalla. Et puis l'autre argument avancé par Edwy Penel et puis par la rédaction de Mediapart, c'est que le parquet a attendu 48 heures pour faire la perquisition chez Alexandre Benalla cet été, dans le cadre de la grande affaire Benalla, et que là, le parquet a juste mis 4 jours pour, après la publication, pour faire une perquisition à Mediapart, juste pour trouver, selon eux, les sources de Mediapart. Et Edwy Penel, le directeur de la rédac de Mediapart, s'en défend. Il n'y a pas eu d'atteinte à la vie privée d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase. Leur objectif, c'était juste de révéler des infos.
Satigui, a-t-on répondu à vos questions ?
Parfait.
Parfait. Bah, on remercie Stéphane Genest d'être venu vous répondre ce matin. Bonne journée à tous les deux. Il est 9h17 à Paris. Dans un instant, nous appellerons notre correspondant à Ouagadougou, où vient de se terminer le sommet du G5 Sahel. Mais d'abord, des questions sur le projet de réforme constitutionnelle en Égypte. Bonjour Noël.
Bonjour Juan.
Merci.
Bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
RFI. Voilà, je vous coupe la parole, je suis désolé. Vous nous appelez d'Abidjan, on vous écoute, soyez le bienvenu.
Oui, Juan, effectivement, une partie des députés égyptiens a déposé un projet de modification de la Constitution à l'Assemblée nationale pour permettre au président Sisi de se représenter à la fin de son deuxième mandat en 2022. Ce projet doit être validé par le Parlement, puis par référendum. Alors, je voudrais savoir quelles sont les chances que cette proposition puisse passer au niveau du Parlement.
Clément Vincent est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Consultant à l'Observatoire des pays arabes, ce texte déposé par une centaine de députés demande plusieurs modifications de la Constitution, dont l'une portant sur la durée du mandat présidentiel. Actuellement, il est limité à 2 fois 4 ans. L'idée, c'est qu'à l'avenir, le mandat présidentiel soit de 2 fois 6 ans, une façon finalement de remettre les compteurs à zéro pour le président Al-Sisi. Est-ce que l'amendement a de fortes chances d'être adopté ?
Oui, tout à fait. Il a toutes les chances d'être adopté. Cet amendement est la première étape institutionnelle d'un projet qui vient de loin, puisque ça fait déjà plusieurs semaines que ce murmure, que les partisans du président se mobilisent pour convaincre d'une nécessité de revoir la Constitution pour laisser les mains libres à Sisi pour reconstruire le pays qui en a besoin, d'après les partisans de Sisi.
Oui.
Donc, il fallait que un cinquième des députés dépose une proposition d'amendement, c'est fait, et maintenant ça doit être soumis au vote parlementaire. La coalition qui soutient Sisi, ayant la majorité à l'Assemblée, il n'y a aucun obstacle parlementaire à l'adoption de cette...
Oui, je crois qu'il n'y a qu'une dizaine de députés qui se présentent comme étant de l'opposition au Parlement égyptien, donc cet amendement sera adopté. Noël, vous avez une autre question ?
Oui, si cet amendement est adopté par le Parlement, est-ce que cela ne risque pas de provoquer des troubles sociaux dans le pays ?
Ah, c'est une bonne question, Clément Vincent. Et en même temps, vous le disiez, Noël, il y a quelques instants, une fois l'adoption par le Parlement, le projet sera soumis à référendum. Donc le dernier mot est censé revenir au peuple, non, Clément Vincent ?
Oui, alors effectivement, on pourrait craindre que une telle révision de la Constitution qui... porte notamment parmi les autres amendements que vous avez évoqués, il y a l'idée d'un affaiblissement parlementaire, d'un rétablissement du ministère de l'information, donc de la propagande officielle. On pourrait craindre que ça fasse descendre le peuple dans la rue. Il est en réalité très peu probable qu'il y ait une mobilisation d'ordre politique en Égypte pour la simple et bonne raison que l'appareil répressif est très efficace et que l'opposition se tait. Elle a été muselée à grands coups de bâton. Donc les Égyptiens ne se mobiliseront pas. sur des questions politiques. En revanche, le risque qui repose pour Sisi, c'est un risque économique. Il a dû, pour obtenir des subsides du Fonds monétaire international en 2016, consentir à une série de réformes et d'austérité qui ont très lourdement frappé les classes moyennes égyptiennes et moyennes et pauvres. Donc c'est le vrai risque est là, et d'ailleurs Sisi le sait, puisque le projet de référendum est prévu pour se dérouler avant fin juin.
D'accord.
Puisque l'année fiscale égyptienne se termine au 31 juin. Mmh. Et la prochaine année fiscale portera très certainement de nouvelles mesures d'austérité. Donc le vrai risque est là. Et d'ailleurs, la dernière fois où les Égyptiens sont descendus un petit peu en nombre dans la rue, c'était en mai dernier, quand le ticket de métro du Caire a été augmenté de manière significative. Mmh.
Donc ça veut dire que si manifestation il y aura, ce sera après le référendum, mais pour des questions financières lorsqu'il s'agira d'adopter le nouveau budget. Merci Clément Vincent d'avoir pris quelques minutes pour répondre à Noël qui nous appelait d'Abidjan. Je rappelle que vous êtes consultant à l'Observatoire des pays arabes. Je vous le disais à l'instant, Yahya Boudani, correspondant de RFI à Ouagadougou, est avec nous. Bonjour Yahya.
Bonjour Juan.
Alors, on vous a contacté ce matin, on a reçu des questions concernant le sommet du G5 Sahel qui s'est tenu ce mardi à Ouagadougou dans la capitale du Burkina Faso. Falingué, bonjour.
Bonjour Gomez, bonjour toute l'équipe de la RFI.
Vous êtes à Bamako, au Mali, nous vous écoutons.
Gomez, le G5 Sahel s'est réuni à Ouagadougou pour son cinquième sommet où les questions sécuritaires et les problèmes liés à la scolarisation seront abordés. Des écoles, notamment au nord du Mali et au Burkina Faso, sont détruites par les attaques terroristes. Mmh. Quels sont les projets du G5 Sahel pour résoudre ces problèmes? Où trouve-t-il ces fonds pour financer les reconstructions?
Alors, Yahya Boudani.
C'est la première question.
Alors, non, raccrochez pas, on va déjà répondre avec Yahya Boudani. C'est vrai qu'à cause de l'insécurité, des dizaines de milliers d'enfants ne peuvent pas aller à l'école au Mali ainsi qu'au Burkina Faso. Que prévoit le G5 Sahel puisque ce sujet a été évoqué mardi?
Oui, il s'agit effectivement d'une situation très préoccupante qui est prise en compte par les chefs d'État du G5 Sahel. Alors, afin de lutter contre les groupes terroristes qui essaient de déstabiliser la zone sahélo-saharienne, le G5 Sahel a constitué une force conjointe composée de 5000 soldats provenant des pays membres. Alors, cette force mène déjà des opérations sur le terrain, le but étant d'éloigner au maximum la menace terroriste et de sécuriser les zones actuellement affectées. En plus, il y a un programme de développement d'urgence qui a été décidé par les 5 chefs d'État en juillet 2018 et il a pour vocation de répondre rapidement d'ailleurs aux besoins les plus pressants et renforcer la résilience et la cohésion sociale des populations vivant dans les zones les plus fragiles aux frontières des pays du G5 Sahel. Alors concrètement, le programme de développement d'urgence concerne des projets en matière de réhabilitation des services sociaux de base et de proximité, y compris les écoles. Voilà pour l'action immédiate. De façon plus structurelle, le G5 Sahel a mis au point un programme d'investissement prioritaire dont la première phase couvre la période 2019-2021. Il s'agit d'un plan d'action à moyen et long terme d'un montant de plus de 2 milliards d'euros en cours de mobilisation et que le G5 Sahel entend mettre en œuvre avec ses partenaires pour contribuer au développement durable de la région. Alors, ce programme d'investissement prioritaire comprend des projets majeurs dans le domaine de l'éducation, de la cohésion sociale, de la résilience des communautés vulnérables dont les femmes, les jeunes, sans oublier les infrastructures, donc la reconstruction des écoles et autres font partie de ce programme d'investissement d'urgence.
Alors, vous parliez, Yahya Boudani, de 2 milliards d'euros. La question de Falingué est pertinente. Où trouve-t-il ces fonds?
Alors, les États du G5 Sahel, chacun, en ce qui le concerne, prend déjà des mesures pour faire face à ces mesures d'urgence. Et au niveau du G5 Sahel, le programme d'urgence se chiffre à 266 millions d'euros. Le montant est déjà mobilisé avec les partenaires multilatéraux de l'Alliance Sahel qui apportent un complément de solution à ces efforts consentis par ces budgets des États.
Ouais. Votre deuxième question, Falingué.
Ok. Au sommet, l'importance d'une collaboration étroite avec les États-Unis d'Amérique a été évoquée. Mm-hmm. Comment faire pour établir ces rapprochements?
Ah, rapprochement entre les États-Unis et la force G5 Sahel. En quelques mots, Yahya Boudani.
Ben, sachez que le G5 Sahel entretient déjà une bonne collaboration avec plusieurs partenaires internationaux, dont les États-Unis à plusieurs niveaux. Par exemple, la force conjointe bénéficie d'un appui conséquent des États-Unis via des accords bilatéraux avec les États membres.
D'accord, très bien. Donc on, et surtout le Burkina Faso qui prend la présidence du G5 Sahel envisage évidemment de consolider, de renforcer cette collaboration. Merci beaucoup Yaya Boudani, Falingué, bonne journée à Bamako. On termine avec Ethan qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Ethan.
Bonjour Johan.
Vous souhaitiez revenir sur la visite historique du pape François aux Émirats Arabes Unis.
Effectivement.
Eh bien,
pour moi, le pape François, le pape François devient le tout premier souverain pontife à voyager dans la péninsule arabique, plus précisément aux Émirats Arabes Unis, pays où, je rappelle, 9 personnes sur 10 sont musulmanes.
Oui.
La première question est de savoir pourquoi les Émirats Arabes Unis tendent-ils la main au catholicisme en allant jusqu'à mobiliser d'importants moyens comme 2000 bus pour faciliter la visite du pape.
C'est une bonne question. C'est vrai que, effectivement, il y a cette anecdote. 2000 bus mis gratuitement à la disposition des fidèles pour aller assister à la messe qu'a célébré le pape dans un stade d'Abu Dhabi. Luc Balmont, bonjour.
Bonjour.
Luc Balmont, journaliste, spécialiste du monde arabe et des minorités chrétiennes. Pourquoi les Émirats Arabes Unis ont-ils déroulé le tapis rouge au pape François?
Pour les Émirats et leur capitale Abu Dhabi, cette visite aura été un coup de com' extraordinaire, une vraie publicité. Elle a montré au monde entier, notamment à l'Occident, très méfiant envers l'islam, que cette fédération de 7 petits États très riches est un royaume musulman ouvert et tolérant, symbole d'un islam de paix, et que contrairement aux pays musulmans qui l'entourent, notamment l'Arabie Saoudite et son islam rigoriste, Le petit émirat de quelques 80 000 km², dirigé depuis sa création en 1971, par la même famille, la famille Nahyan, est l'exemple d'une convivialité islamo-chrétienne qui marche bien.
Oui.
Et de fait, sur le territoire des Émirats, on dénombre à peu près une trentaine d'églises, dont 2 seulement catholiques. Les autres appartiennent aux confessions orthodoxes, aux confessions coptes, aux confessions protestantes.
Ouais. Enfin, faut dire quand même que la majorité des catholiques qui vivent aux Émirats Arabes Unis, ce sont des immigrés originaires des Philippines, d'Inde. Voilà, ce sont exclusivement des étrangers qui sont catholiques.
Voilà, je vais le développer tout à l'heure. Ouais. L'Église catholique est également représentée par un vicaire apostolique, Monseigneur Polinder, un Suisse. Les chrétiens, justement, ce que vous disiez, tous des coopérants, des expatriés, de nombreux travailleurs émigrés, indiens, philippins, érythréens, palestiniens, coptes égyptiens, peuvent vivre leur foi.
En tout cas, les juifs. Il y avait cette volonté de soigner l'image, une image d'ouverture et de tolérance. Luc Balmont, le temps passe très vite. On a à peine 1 minute 30 et Ethan avait une dernière question à vous poser. Ethan.
Ouais. Je voulais savoir quelle était la portée de la décoration que le pape François a décernée à l'ancien conseiller du grand imam d'Al-Azhar, Mohamed Mahmoud Abdel Salam.
Alors, cette décoration, c'est le grade de commandeur avec plaque de l'ordre de Pie IX.
Voilà. C'est d'abord un constat. Hein. Les experts, les religieux et même les vaticanistes ignoraient tous ceux que j'ai rencontrés, que j'ai interviewés, ignoraient tous l'existence de cette décoration. Qui est-elle, qui l'a créée, en quelle année et pourquoi. Et finit par trouver, la décoration a été créée en 1847 par le pape Pie IX, souverain pontife entre 1846 et 1870.
D'accord.
L'ordre de Pie IX récompense une personnalité qui contribue par son action à défendre et à propager les valeurs chrétiennes. L'émir Abdelkader a reçu cette décoration pour son sauvetage des chrétiens à Damas en 1860, et le président Lech Walesa, le président polonais, a contribué à la chute du rideau de fer communiste, a reçu aussi cette décoration.
Voilà qui. En tout cas, merci beaucoup Luc Balmont, c'était passionnant, on a appris beaucoup de choses. Je rappelle que vous êtes spécialiste du monde arabe et des minorités chrétiennes. Ethan, bonne journée à Yaoundé, on revient nous dans 10 minutes.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.